Nous accueillons Anne-Simone Dufiez qui vient nous honorer de sa présence. Il n'y a effectivement personne qui puisse mieux parler d'Alphonse Daudet et de la poésie, puisque Anne-Simone Dufiez est professeure émérite à l'Université d'Angers et spécialiste de la littérature du XIXe siècle. Elle a beaucoup travaillé sur l'œuvre d'Alphonse Daudet et lui a consacré sa thèse « Alphonse Daudet, romancier ». Sous la direction de Louis Foresti, professeur de la Sorbonne. Alors je fais une petite insiste parce qu'il me semble que le mois dernier, on a oublié de spécifier vraiment que Pierre Segers avait soutenu sa thèse, et également avec ce même professeur, Louis Foresti. Il a eu aussi...
Pardon. Également.
Et alors voilà, je voulais...
Et Pierre aussi.
Voilà, que Pierre Dufiez, qui
c'est
là,
un groupement.
A également soutenu sa thèse avec ce professeur, Louis Foresti, et moi également. Donc voilà, ça fait voilà. Et donc nous rendons un peu hommage à ce professeur très émérite, Louis Foresti. Et ben voilà, donc nous sommes tous réunis autour de lui. Je pense qu'il y pense. Et donc Anne-Simone Dufiez va de ce côté éditer les œuvres d'Odès chez Omnibus, les chroniques dramatiques chez Champion, et elle est présidente de l'association des amis de la France d'Odès, qui organise depuis 30 ans, chaque année, un colloque consacré à l'aspect de l'œuvre d'Odès, et dont les actes sont publiés dans un petit bulletin, enfin dans un bulletin, pardon, pour le petit, c'est parce que c'est le petit chose qui vient après. Le bulletin s'appelle le petit chose, et ce n'est pas une mince affaire.
Voilà, merci Bernard. Bah écoutez, je suis très, très honorée de pouvoir parler de Daudet au Cercle Aliénor. Je dois me justifier, ça n'a rien d'incongru, même en ce jour inaugural du Printemps des Poètes, parce que Daudet, au printemps de sa vie, a été un poète. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon au niveau son? Oui, c'est bon. J'ai moyen.
Parce que.
Et là, est-ce que c'est mieux? Bon. Un peu mieux? Pas beaucoup mieux? Bon. Alors, Daudet est un écrivain célèbre. Mais cette célébrité est aujourd'hui limitée à deux titres. Les lettres de Moulin, une œuvre souvent mal comprise aujourd'hui. On croit que ces lettres sont provençales, voire parfois traduites du provençal, et surtout, on les imagine à destination des enfants. Deux grosses erreurs. Le deuxième titre qui peut-être surnage, c'est Tartarin de Tarascon. Là aussi, le roman Tartarin de Tarascon n'est pas davantage destiné aux enfants que les lettres de Moulin ne sont destinées aux enfants. D'ailleurs, les enfants à qui on le propose ont beaucoup de mal à le lire, même s'il est vrai que de nombreuses BD le vulgarisent en littérature jeunesse. Je pense que pour être juste, il faudrait peut-être avec optimisme ajouter le petit chose. Alors, on ne peut pas être plus optimiste, je crois, pour le très grand public. Alors, actuellement, je dirais que trois expressions stéréotypées surnagent et sont dues, bien évidemment, à Daudet et à sa plume. Tout d'abord, vous direz volontiers de quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est l'Arlésienne. Bien. Ensuite, peut-être direz-vous de quelqu'un que vous trouvez vantard, c'est un Tartarin. Bien. Et peut-être direz-vous aussi un tel. C'est le petit chose. Donc, voilà trois façons de se rappeler le nom de Daudet qu'on trouve finalement assez souvent, donc, passé en quelque sorte comme des éléments courants. Or, à sa mort, Alphonse Daudet était reconnu comme un romancier, un grand romancier, le rival de Zola, hein, véritablement pour tous ses contemporains, et également comme un conteur qu'on jugeait à l'époque supérieur, égal peut-être, mais supérieur souvent à Maupassant. Donc, réputation à sa mort semble avoir relégué des débuts poétiques. Pourtant, Daudet a une particularité qui n'est jamais retenue ni pour Zola ni pour Maupassant. Il est considéré comme un poète. Et on dira toujours de Daudet, en tout cas dans sa nécrologie, alors même qu'il est tenu pour un grand romancier, on dira toujours de Daudet, ah oui, mais il est poète. Donc c'est évidemment ce qui me rend suffisamment audacieuse pour parler de Dos des poètes au cercle Aliénor. Alors je commencerai d'abord par la jeunesse. Daudet arrive à Paris en 1858 pour s'y faire reconnaître comme poète. Tous ses biographes l'attestent et nous devons évidemment porter attention à ce qu'il nous raconte dans Le Petit Chose où se trouve finalement un véritable récit de vocation poétique. Je résume rapidement. Arrivé à Paris, le héros, Daniel, voit sa vocation poétique confirmée par l'approbation enthousiaste de son frère, qui, à la lecture de ses poèmes, le décharge de tout travail. Il n'y a plus à hésiter, Daniel, tu es poète, il faut rester poète et chercher ta vie de ce côté-là. Le jeune homme va donc compléter son volume de vers, il va démarcher vainement les éditeurs parisiens, puis se décider à être imprimé à ses frais. Son livre est mis en vente sous les galeries de l'Odéon, dans une boutique qui n'est pas difficile de reconnaître, c'est celle de Tardieu, qui a justement édité Les Amoureuses à compte d'auteur. La vente, comme vous vous en doutez, est quasiment nulle. Et pourtant, l'auteur, le petit chose dans le roman, est tout à l'émotion de se voir publié. Comme il n'arrive pas à se faire reconnaître, eh bien, il décide de participer à des lectures, je m'excuse, à des lectures de ses propres poèmes dans une crèmerie de la rue Saint-Benoît, derrière. Hein. Donc, dans cette crèmerie de la rue Saint-Benoît, il lit, mais c'est là que se réunissent les amis du grand Bhagavat, nous en reparlerons tout à l'heure, et finalement, ses poèmes ne sont pas plus reconnus à l'Odéon que dans la crèmerie de la rue Saint-Benoît. Donc finalement, il se résigne à les lire dans le salon de Pierrotte. Pierrotte est un marchand de porcelaine qui a fait fortune en venant poussant son chariot depuis le Limousin. Donc, même devant ce parterre qui n'a pas beaucoup entendu parler de poésie et qui lui est acquis car il est le fiancé ou presque de la fille du lieu, eh bien même devant ce parterre, sa lecture est un échec. Alors ce qui m'intéresse dans cette lecture échec, c'est que dans le roman, le petit chose lit un texte, le mot texte est peut-être un peu moderne, lit quelque chose qui s'appelle les aventures du papillon bleu, et ces aventures du papillon bleu, ça n'est pas autre chose que la 12e lettre de Montmoulin qui venait d'être publiée dans l'événement. Donc vous voyez, dans un roman de fiction, il intègre une production poétique qui est la production poétique de Daudet. Pour connaître le jeu entre le narrateur, Daniel, poète, et Daudet, donc, qui lui prête ses poésies. Alors après un certain nombre de tribulations romanesques et pathétiques, Daniel plie devant l'insuccès et le roman se clôt par un adieu aux muses. Les feuillets du livre déchirés servent de papier d'emballage pour une expédition de coquetiers à Madagascar. Alors, je ne sais pas si les malgaches mangent beaucoup de coques, voyons là une fantaisie. En tout cas, je pense qu'Edmond Rostand a bien lu Le Petit Chose quand il évoque Ragnaud, qui utilise les feuillets déchirés de ses amis poètes pour emballer ses pâtisseries. Alors ce récit de vocation appelle bien sûr un certain nombre de remarques. Il est à la fois faux et vrai. Des contre-vérités surprennent. Ernest Daudet, le frère, a sans doute renoncé à la poésie, mais il est bien vivant, il n'est pas mort comme dans le roman. Daudet n'est pas devenu marchand de porcelaine, et si son recueil des amoureuses a servi de papier d'emballage, c'est totalement à son insu. D'ailleurs, M. Cordier, qui en possède un exemplaire, ne l'utilise pas comme papier d'emballage. Alors que l'histoire du petit chose est souvent pathétique, on peut noter une constante prise de distance introduite par un ton ironique que cultive Daudet vis-à-vis de son personnage, c'est-à-dire qu'il se dédouble et il se dédouble en se moquant de lui-même. Et là, on trouve un trait de personnalité qui va être constant chez Daudet. En revanche, on est forcé de constater que cette anecdote plaisante renseigne sur la pratique poétique de Daudet. Il est impossible de démêler le vrai du faux pour la partie enfantine. même si on a retrouvé des poèmes de Daudet qui ont été écrits probablement très tôt. Le texte indique l'influence du lyrisme lamartinien, c'est bien naturel, hein, en 1850, et le goût précoce de la forme épistolaire, hein, du poème sous forme de lettres d'adresse. On retrouve aussi une préférence de Daudet pour un conte, le conte inspiré de La Fontaine, c'est-à-dire une muse badine et fantaisiste, et le rejet d'une poésie guindée à l'imitation des anciens. Daudet, dans Les Amoureuses, règle également ses comptes avec la poésie, et surtout dans Petites Choses, avec la poésie parnassienne et avec la tyrannie du critérium. Le fait que la poésie lue chez Pierrotte soit un dialogue en vers qui se termine en prose, c'est-à-dire que le texte commence en vers et se termine en prose, paru sous la signature de Daudet, renseigne aussi sur ses choix poétiques. En outre, le papillon bleu, dont Daniel écrit les aventures, est un poète bohème qui finit dévoré par un scorpion et une araignée. Comment ne pas y voir une mise en abîme de Daniel dans La fosse aux lions et une image de la condition tragique de l'homme de lettres telle qu'elle apparaît dans le célèbre texte des lettres de Montmoulin, La légende de l'homme à la cervelle d'or. Alors, finalement, en dépit de cette mise en fiction qu'est le Petit Chose, ce vrai faux récit, qui est d'ailleurs assez facile à repérer à la lecture du roman, livre finalement des confidences authentiques sur les débuts poétiques de l'écrivain. Et le Petit Chose nous conduit au plus près pour comprendre l'acte de création chez le jeune poète qui n'est pas encore devenu romancier. Alors, je voudrais maintenant évoquer Les Amoureuses. Est-ce un recueil original ? Les critiques des contemporains ont été sévères. Un critique, Jean-Jacques Weiss, affirme en 1864 que Les Amoureuses comportent de tout et énumère, un peu pêle-mêle, du naturel, du guindé, du triste, du gai, du galant, du familier, du Musset, du Murger, du Banville. Hein, c'est presque un inventaire à la Prévert de tout ce qu'on peut trouver dans ce premier recueil. Un peu plus tard, Zola, dans son éloge funèbre de Daudet en 97, tente quelques remarques plus positives, voyant dans le recueil, ce qu'il est sans doute d'ailleurs, une écriture en devenir. Il affirme, Alphonse Daudet a commencé par faire des vers, combien en a-t-il fait, combien de centaines dorment-ils encore dans ses tiroirs, de ces heureux vers de jeunesse, acides, comme des fruits de plein vent qu'on ne publie jamais et qu'on relit toujours. C'est ce que j'ignore, car les poètes ont de grandes pudeurs pour leur premier bégaiement. Alphonse Daudet s'est contenté de réunir de 1000 à 1200 de ses vers dans un volume intitulé « Les Amoureuses ». C'est là tout son bagage poétique. Toutefois, il faut le dire, les vers d'Alphonse Daudet ne sont que des épaves de jeunesse. Il reste un commencement, rien de plus. Jugement finalement un peu négatif, hein, épave de jeunesse, ça n'est pas très flatteur. Et en fait, Les Amoureuses méritent probablement, je pense en tout cas, d'être relues. Tout d'abord, on y trouve, et c'est tout à fait naturel, on y trouve mis en premier plan le lyrisme poétique. Alors, ce lyrisme est-il épanchement du cœur ? Est-il intimisme ? L'un des poèmes les plus anciens évoque l'amour maternel. Et sous le titre « La Vierge à la crèche », il est à la fois religieux, mais en même temps maternel, car il nous montre une Vierge Marie bien ennuyée parce que son bébé ne dort pas. Hein, donc on est... Bon. Un autre de ces poèmes, dans les plus anciens, c'est l'angoisse de parents qui veillent un enfant qui est malade du croup et qui évidemment craint une issue fatale. Daudet peint également la naissance de l'amour chez deux adolescents sous le titre Les Prunes. Ce poème lui a valu une célébrité de salon et une légende. L'impératrice Eugénie aurait récité Les Prunes à Compiègne et tout le monde aurait trouvé ça tellement agréable qu'elle aurait intimé à son demi-frère de Napoléon III, Morny, l'ordre de faire une position à ce jeune poète. Légende familiale, mais jolie légende. Le titre même du recueil Les Amoureuses, et déjà un avertissement. Dans les motifs qu'il emprunte au romantique, Daudet est toujours sur la réserve, choisissant de n'afficher ni sentiments authentiques, ni position éthique. La fantaisie lui fait exprimer des sentiments multiples, qui manquent souvent de profondeur. Ce sont des amourettes plus que des amours, et plus même que de l'amour avec un grand A. Dans À Clairette, il met ses sentiments en parallèle, mais finalement pour mieux les distinguer. Je lis ce petit verset. « Croyez-moi mignonne, avec l'amourette que nous gaspillons à deux, chaque jour, on fait de l'amour avec l'amourette. » De même, le poète propose plutôt des émotions que l'expression de véritables sentiments. Ces impressions sentimentales se démarquent donc d'un sentiment dominant. Dans un poème sur la mort de Musset, son allégeance au maître le plus proche de lui, Daudet a en effet signé Fantasio ses premières chroniques dans la presse, donc son allégeance n'est pas sans réserve. Le poème s'appelle le 1er mai 1857, Mort d'Alfred de Musset, et Daudet voit en lui un poète de l'excès, comme le montrent des adverbes d'intensité et l'expression du manque dès les premiers vers. L'expression physiologique du sentiment exacerbé est d'ailleurs mise en valeur par son retrait en rejet avec une énumération des causes de ses larmes présentées finalement comme futiles. Je vous lis le 4-1, donc il s'agit de Musset dans la plume de Daudet. Nature de rêveur, tempérament d'artiste, il est resté toujours triste, horriblement triste. Sans savoir ce qu'il veut, sans savoir ce qu'il a, il pleure. Pour un rien, pour ceci, pour cela. Donc, une admiration qui reste quand même nuancée. Alors, je voudrais maintenant laisser la parole pour une lecture d'un poème à peu près de même tonalité, intitulé « Fanfaronnade ».
Je n'ai plus ni foi ni croyance. Il n'est pas de fruit défendu que ma dent n'ait un peu mordu sur le vieil arbre de science. Je n'ai plus ni foi ni croyance. Mon cœur est vieux. Il a mûri dans la pensée, dans l'étude. Il n'est pas de vieille habitude dont je l'ai enfin guéri. Mon cœur est vieux. Il a mûri. Les grands sentiments me font rire. Mais comme c'est très bien porté, j'ai quelques-uns de côté pour les jours où je veux écrire des vers de sentiments pour rire. Quand un ami me saute au cou, je porte la main à ma poche. C'est mon parent le plus proche, j'ai toujours peur d'un mauvais coup quand ce parent me saute au cou. Veut-on savoir ce que je pense de l'amour chaste et du devoir? Pour le premier, allez-y voir. Quant à l'autre, je me dispense de vous dire ce que je pense. C'est moi qui me suis interdit toute croyance par système. Et voyez, je ne crois pas même un seul mot de ce que j'ai dit.
Donc oui, là vous avez un esprit qui est celui de Daudet, mais qui est aussi avec une inspiration de Musétienne, et on pense évidemment au sonnet Tristesse. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Hein, donc on est sur cet homme. Alors, la fantaisie, vous l'avez compris, domine dans le recueil. Elle colore d'humour les motifs sentimentaux et elle suggère constamment le pas de côté que le poète fait. L'originalité de Daudet est évidemment plutôt dans cette évidente dérision qu'il exprime, cette ironie qui parcourt le recueil. C'est une touche humoristique qui est d'ailleurs surtout exprimée dans la chute de certains poèmes, qui fonctionne finalement comme un art de la volte-face. Il use des points de suspension pour créer une attente, puis une surprise du lecteur, dans Fanfaronnade, que nous venons d'entendre, ou dans La mort d'Alfred de Musset, qui s'achève sur ce vers, donc il s'agit de la mort de Musset, et meurt de dégoût, de tristesse et d'absinthe. Cherchons donc le sourire du lecteur, étonné devant une énumération des plus triviales. Alors nous allons maintenant entendre, pour être sensible à cet art de la pointe, deux textes que vous allez donc lire. La rêveuse.
La rêveuse. Elle rêve, la jeune femme, l'œil alangui, les bras pendants. Elle rêve, elle entend son âme qui chante au-dedans. Tout l'orchestre de ses 20 ans, clavier d'or aux notes de flamme, lui dit une joyeuse gamme sur la clé d'amour du printemps. La rêveuse leva la tête, puis, la penchant sur son poète, s'enfuit, lui murmurant tout bas, « Ami, je rêve, ami, je pleure, ami, je songe que c'est l'heure, et que mon coiffeur ne vient pas. »
Alors, vous aviez aussi retenu, je crois, l'oiseau bleu, ça, non ?
Oui.
Ça ? Donc, peut-être, oui. Si. Un autre poème, donc l'oiseau bleu.
L'oiseau bleu. J'ai dans mon cœur un oiseau bleu, une charmante créature, si mignonne que sa ceinture n'a pas l'épaisseur d'un cheveu. Il lui faut du sang pour pâture. Bien longtemps, je me fis un jeu de lui donner sa nourriture. Les petits oiseaux mangent peu, mais sans en rien laisser paraître, dans mon cœur, il a fait, le traître, un trou large comme la main, et son bec fin comme une lame, en continuant son chemin, est entré jusqu'au fond de l'âme.
Yeah, donc le lyrisme de Daudet n'est pas, vous le voyez, original dans les sentiments qu'il exprime, mais dans cette posture particulière d'un jeu poétique qui s'amuse et s'amuse aussi à jouer avec le lecteur et les attentes qui peuvent être celles du lecteur. Daudet s'amuse aussi en composant des poèmes d'humoristes et vous allez entendre Les Bottines qui est très caractéristique de cette veine.
Moitié chevreau, moitié satin, quand elle court par la chambre, clic-clac, il faut voir de quel air mutin leur fini sommeil se cambre, clic-clac, sous de minces boucles d'argent, toujours trottant, jamais oisive, clic-clac, elles ont l'air intelligent de deux petites souris vives, clic-clac. Elles ont le marché d'un roi, les élégances d'un cul tendre, clic-clac, par là-dessus je ne sais quoi de fou, de railleur et de tendre, clic-clac. En hiver, au coin d'un bon feu, quand le sarment pétille et flambe, clic-clac, elles aiment à rire un peu, en laissant voir un bout de jambe, clic-clac. Mais quoique assez lestes au fond, elles ne sont pas libertines, clic-clac, et ne feraient pas ce qu'on fond la plupart des autres bottines, clic-clac. Jamais on ne nous trouvera dansant des polkas buissonnières, clic-clac. Au bal masqué de l'opéra ou dans le casino d'Anières. Clic-clac. C'est tout au plus si nous allons deux fois par mois avec décence. Clic-clac. Nous trémousser dans les salons des bottines de connaissance. Clic-clac. Puis quand nous avons bien trotté, le soir nous faisons nos prières. Clic-clac. Avec toute la gravité de deux petites sœurs tourières. Clic-clac. Maintenant, dire où j'ai connu ces merveilles de miniature. Clic-clac. Le premier chroniqueur venu vous en contera l'aventure. Clic-clac. Je vous avouerai cependant que souvent fois il m'arrive, clic-clac, de verser en les regardant une grosse larme furtive. Clic-clac. Je songe que tout doit finir, même un poème d'humoriste. Clic-clac. Et qu'un jour prochain peut venir où je serai bien seule, bien triste. Clic-clac. Lorsque pour une bonne fois mes oiseaux prenant leur volée, clic-clac. De loin, sur l'escalier de bois, j'entendrai l'âme désolée. Clic-clac.
Bien. Donc ces poèmes se lisent comme une succession de tableautins, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Richard au sujet de Baudelaire. Ces tableautins, Daudet les juxtapose, mais néanmoins ils peuvent trouver une identité, les séparer les uns des autres, à part les uns des autres. Alors on est évidemment, en lisant Les Amoureuses, admiratif devant la virtuosité du versificateur qui s'essaie à des formes multiples. On ne peut qu'être sensible à la musicalité du recueil où les allusions à la chanson, gavotte, ariette sont omniprésentes. Les rythmes que le poète exploite, octosyllabes et décasyllabes, moins solennels que l'alexandrin, confèrent un aspect sautillant au recueil, hein, vous avez entendu ce sautillement immédiatement, et naturellement ce sautillement est renforcé chez Daudet par la présence de refrains. Avec le poème Les Prunes par exemple, Daudet joue avec son lecteur, puisqu'il s'agit d'une variation sur l'expression populaire « compter pour des prunes » et en même temps l'emploi du triolet, une forme poétique assez rare que Daudet remet à la mode. Donc Musique et dérision jouent finalement la même partition pour séduire les lectrices à qui Daudet s'adresse à la fin du poème « Les prunes ». Alors, si je quitte à regret les amoureuses, c'est pour m'intéresser dans un deuxième point au cercle de poètes qui gravitent autour de Daudet, car Daudet s'est toujours entouré de poètes, même quand lui-même a cessé d'écrire les poèmes. Alors, je commencerai d'abord par la rencontre avec Frédéric Mistral. Daudet a souvent raconté comment il a découvert Mistral alors que celui-ci était venu à Paris toucher son prix de l'Académie française pour Mireille. Cette rencontre est une rencontre décisive qui ancre Daudet dans une Provence qu'il a quittée à l'âge de 8 ans, puisqu'il a quitté Nîmes à l'âge de 8 ans pour Lyon, hein, et il n'y était pratiquement jamais retourné. Hein. Donc c'est Mistral qui finalement le ramène en Provence, et entre lui et Frédéric naît une amitié qui ne se défera jamais, malgré les tensions que la politique va faire naître. Daudet n'a en effet jamais été fait libre, son tempérament indépendant lui fait refuser tout embrigadement, mais il a toujours participé à de joyeuses rencontres en Avignon, hein, les faits librés, et il a très souvent rendu visite à Mistral, à Mayanne. Mayanne étant à 10 km de Fontvieille. Hein. Mistral a été son témoin de mariage et il a récité à la cérémonie un poème que Daudet admirait énormément qui s'appelle La communion des saints. Le jour où vous aurez le Sorcalienor Mistral, je pense qu'on vous lira La communion des saints parce que c'est un très beau poème. C'est un poème que Daudet a fait connaître dans la presse aux Parisiens qui l'ignoraient. Alors les deux amis se sont rendus tout au long de leur existence, Mistral a enterré Daudet puisque Daudet est mort en 97, les deux amis se sont donc rendus de multiples services. Daudet fait passer les poèmes de Mistral dans la presse parisienne et la lettre de Montmoulin, le poète Mistral, rend hommage au poète et au projet linguistique du poète. C'est le texte numéro 9.
Tandis que Mistral le disait ses vers dans cette belle langue provençale, plus qu'aux trois quarts latines, que les reines ont parlé autrefois, et que maintenant nos pâtres seuls comprennent. J'admirais cet homme au-dedans de moi, et songeant à l'état de ruine, où il a trouvé sa langue maternelle et ce qu'il en a fait. Je me figurais un de ces vieux palais des princes des beaux, comme on en voit dans les empires. Plus de toits, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassées, le blason des portes mangé de mousse, des poules picorant dans la cour d'honneur, des porcs vautrés sous les fines colonnettes des galeries, l'âme broutant dans la chapelle où l'herbe pousse, des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie, et enfin, parmi ces décombres, deux ou trois familles de paysans se sont bâties des huttes dans les flancs du vieux palais. Puis voilà qu'un beau jour, le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanées. Vite, vite, il chasse le bétail hors de la cour d'honneur et les fées lui venant en aide, à lui tout seul, il reconstruit le grand escalier, remet des boiseries aux murs, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône et met sur pied le vaste palais d'autre temps où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale. Ce fils de paysan, c'est Mistral.
Merci. Alors, je voudrais, après l'admiration, évoquer peut-être le contraire de l'admiration, c'est la dispute avec les Parnassiens. Les Parnassiens sont, en 1850, une école dominante qui est en train d'émerger sous le Second Empire. Leurs choix esthétiques sont bien évidemment en rupture avec le romantisme, hein, les écoles se suivent et s'opposent. Leur chef de file est le comte de Lille. Ils réagissent à ce qu'ils appellent un excès lacrymal dans la poésie des suiveurs de Lamartine et prônent une impassibilité unie à un très, très grand souci de la forme poétique. Daudet les a fréquentés à son arrivée à Paris dans des salons comme celui de Virginie Ancelot ou celui de la marquise de Ricard. Mais en 1866, lorsque paraît enfin le Parnasse contemporain chez Lemaire, qui marque l'émergence de la nouvelle avant-garde poétique, Daudet n'en fait pas partie et ne publie rien dans le recueil du Parnasse contemporain. Cette absence s'explique d'abord par des divergences esthétiques. Vous l'avez vu avec les amoureuses, Daudet préfère le lyrisme personnel et ce disciple de Musset ne se reconnaît ni dans l'art pour l'art, ni dans la poésie en apparence objective et impassible de Le Comte de Lille. Malgré son goût de la fantaisie, qui aurait pu le rapprocher de Gautier, de Banville, de Latini, de Mendès, l'auteur des Amoureuses et de la Double Conversion n'a pas, comme les Parnassiens, le culte de la perfection formelle. Son modèle en poésie est le naturel et la désinvolture, en particulier la désinvolture de la chanson. Mais à ces raisons esthétiques peut s'ajouter une raison politique. Daudet est devenu le secrétaire, enfin l'un des secrétaires du duc de Morny, qui est donc le président du conseil, le demi-frère de Napoléon III. Et le fils de la marquise de Ricard, Louis-Xavier de Ricard, est lui un républicain convaincu. Donc, opposition politique d'un Daudet qui, comme chroniqueur, a pu passer comme une sorte de bras armé du duc de Morny, qui se piquait aussi de poésie et de théâtre. Et Daudet lui aurait écrit un certain nombre de chansons un petit peu leste, hein, et en particulier « Bon petit nègre adore le gigot ». Donc je ferme cette parenthèse et je reviens à la colonie de Clamart. On appelle colonie de Clamart un groupe de poètes bohèmes qui habitent à Clamart, c'est moins cher que Paris, hein, donc qui habitent ensemble à Clamart, et à ce groupe dite colonie de Clamart appartient Daudet. Ce groupe décide alors de se venger de leur absence dans le Parnasse contemporain en publiant le Parnassiculet contemporain. Une charge parodique à laquelle Daudet participe pour deux poèmes qui vont vous être lus, les Madrigaux thébains, un pastiche de Le Comte de Lille dont on connaît le goût pour la langue grecque, et le Martyr de Saint-Labre, dont je vous parlerai plus amplement après que vous ayez entendu ces deux poèmes.
Donc d'abord, les Madrigaux sur le Martyr thébain. Amer et farouche et taillir, je chanterai sur ma syrinx de buis jaune le froid délire que me versent tes yeux de sphinx. Tu caches le cœur noir d'un lynx dans ton corps de souple porphyre, et sur ta sandale on peut lire Zeus, cher à Kithéré, pince. Sur ta peau, soyeux papyrus, les sœurs blondes, les trois carites, en lettres grecques sont écrites par le doigt fin du jeune Héros. Plus douce que le nénuphar dans l'eau claire, une aurore blanche baise ton pied rose et ta hanche ivoirine, ô Zulma Bouffard. Puis le sonnet, le Martyr de Saint-Labre, un sonnet particulier.
Oui. Écoutez bien parce qu'il est très particulier.
Labre, Saint-Glabre, teint, main, sabre, scabre, jeun, pince, fer, chair, grince, chair, mince.
Bien. Donc vous avez reconnu dans les madrigaux thébains la vie de Thèbes, le pastiche de cette manie qu'avait le comte de Lille de mettre des mots en grec dans tous ses poèmes, de choisir des kithérées plutôt que des cithares, etc., etc. Donc ça c'est un premier élément, et c'est un poème qui est encore à peu près, qui a une forme à peu près, bien que parodique, qui a une forme à peu près reconnaissable. En revanche, dans le sonnet que vous venez d'entendre, la particularité, vous y avez certainement été sensible puisque vous êtes tous poètes, c'est que Daudet a choisi un maître qui est assez rare, hein, puisqu'il s'agit du maître monosyllabique. Donc, un sonnet monosyllabique à propos du martyr de Saint-Labre. Disons, il faut que je vous explique qui est Saint-Labre. Le martyr de Saint-Labre est une charge contre Verlaine. Pourquoi ? Le 20 mai 1860, le pape Pie IX avait béatifié Benoît Joseph Labre, qu'on appelle aussi le Folant Christ, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a été aussi surnommé le vagabond de Dieu, et qui, par esprit de mortification, avait fait un vœu spécifique, ne pas se laver et n'avoir aucun soin corporel. La canonisation n'eut lieu qu'en 1881, sous le pontificat de Léon XIII. Or, ce saint pour le moins marginal, était à la fois un errant et un pouilleux, hein, forcément, hein, les poux, hein, était profondément admiré par Verlaine, qui voyait en lui, je cite Verlaine, la seule gloire religieuse française du XVIIIe siècle. Comme tout le monde, il était de notoriété que Verlaine n'était pas particulièrement soigné de sa personne. Hein. Donc, Verlaine, est en lisant le Parnassiculé contemporain, est donc ivre de rage, et enfin ivre d'ailleurs il l'était assez souvent, donc fou de colère et ivre, à l'issue d'un banquet fin 1866, il se jette sur Daudet et il le rompt de coups de poing. Bon, on les sépare, à bras raccourcis, hein. Donc on les sépare, et du coup, ça n'est pas. L'atmosphère n'est pas au beau fixe entre les deux, hein. Entre les deux groupes en tout cas. Louis-Xavier de Ricard décide alors de s'en prendre à Daudet, et il publie un poème intitulé Le poète Myosotis. Alors, où il brocarde, le poème est très long, je n'en donnerai que quelques vers, où il brocarde à la fois le physique de Daudet, tout petit, un homme tout petit, et les talents de Daudet. Rime les faits divers, chérie les abonnés, chante les papillons, les petits nouveau-nés, que la mort vole à leur famille. Dédaigne les hauteurs où tu n'atteindrais pas, petit comme tu l'es, galope à petits pas dans les profondeurs de la plaine, ne prétends pas trop haut, sois prudent, ô dos, des patients et doux, et des beaux dais, ne foule jamais que la reine. Et vous avez reconnu la pointe à Paul Arène, qu'on avait accusé, soupçonné Daudet de l'avoir copié. Daudet va donc à la fois se venger des Parnassiens et de le comte de Lille en écrivant dans le Petit Chose un texte qui va vous être lu, où il est aisé de reconnaître le comte de Lille en Bhagavat, puisque l'un des poèmes de le comte de Lille mettait en scène Bhagavat.
De petits extraits, le Petit Chose. Un mot, jeune homme, avant de commencer. Quel est votre critérium ? Je le regardais avec inquiétude. Votre critérium, fit le terrible penseur en haussant la voix. Quel est votre critérium ? Hélas, mon critérium, je n'en avais pas. Je n'avais jamais songé en avoir un. Cela se voyait, du reste, à mon œil étonné, à ma rougeur, à ma confusion. Le penseur se leva, indigné. Comment ? Malheureux jeune homme, vous n'avez pas de critérium. Inutile alors de me dire votre poème. Je sais d'avance ce qu'il vaut. Et deuxième extrait. Ah, quand le poète récitait Bhagavat, toute la salle du fond croulait, on hurlait, on trépignait, on montait sur les tables. Moi, par entraînement, je criais plus fort que tout le monde. Mais au fond, je n'étais pas fou de Bhagavat. En somme, ces poèmes indiens se ressemblaient tous. C'était toujours un lotus, un condor, un éléphant et un buffle. Quelquefois, pour changer, les lotus s'appelaient loto. Mais à part cette variante, toutes ces rhapsodies se valaient. Ni passion, ni vérité, ni fantaisie. Des rimes sur des rimes. Une mystification.
Bien. Alors, les rancœurs, qui sont quand même encore très vives en 1866, vont être mises sous le boisseau. Et ce qui va évidemment contribuer à mettre ses rancœurs sous le boisseau, c'est la conversion de Daudet au roman. Donc il quitte, si j'ose dire, la scène poétique, et du coup, les choses s'apaisent. 30 ans plus tard, l'éditeur Lemaire, éditeur historique des poètes, hein, le Segard de l'époque, hein, l'éditeur Lemaire invite ensemble Le Comte de Ville, Hérédia, Copé et Daudet. Une photo est prise chez le maire, qui les montre donc tous assis côte à côte. On peut remarquer quand même que les deux anciens ennemis semblent s'éviter du regard. Hein. Et dans une lettre inédite, qui n'a été retrouvée qu'en 1936, le maître du Parnasse, le grand Lecomte de Lille, écrit à un correspondant dont on ignore le nom, et c'est bien dommage, « Soyez assurés que je n'ai jamais lu de vers à mes amis dans aucune crêperie de la rue Saint-Benoît. » Crèmerie, pardon, excusez-moi. C'est mon côté breton. « Dans aucune crèmerie de la rue Saint-Benoît. Tout cela est de l'invention de Daudet et même d'une assez piètre invention. » On m'avait signalé dans le temps ce passage du Petit Chose que j'avais négligé de lire et que je n'aurais probablement jamais lu si vous ne me l'aviez communiqué. Bon, Daudet, que j'ai connu depuis, m'a prodigué autant de louanges qu'il m'adressait autrefois d'injures littéraires. Mais les unes et les autres, d'une valeur égale d'ailleurs, me sont absolument indifférente. Nous ne sommes pas du même monde intellectuel. Bien, donc le grand Bhagavat n'avait pas pardonné aux petites choses. Alors, à côté de ces querelles, il y a quand même autour de Daudet quelques amis poètes avant que Daudet ne se fasse de nouveaux ennemis. Parmi les amis poètes, citons Théodore de Banville, qui, bien que parnassien, a toujours été un ami de Daudet. Daudet appréciait particulièrement la fantaisie de l'auteur des odes funambulesques et son attachement à Victor Hugo. Je vous rappelle ce vers, le père est là-bas dans l'île, rappelons que Hugo est toujours en exil. Banville a fait de Daudet un portrait très flatteur dans les Camées parisiens, qui va vous être lu sinon intégralement, du moins dans sa partie la plus flatteuse.
Une tête merveilleusement charmante, la peau d'une pâleur chaude et couleur d'ambre, les sourcils droits et soyeux, l'œil enflammé, noyé à la fois humide et brûlant, perdu dans la rêverie, n'y voit pas, mais est délicieux à voir. La bouche voluptueuse, songeuse, empourprée de sang, la barbe à la fois douce et enfantine, l'abondante chevelure brune, l'oreille petite et délicate concourt à un ensemble fièrement viril, malgré la grâce féminine. Avec ce physique invraisemblable, Alphonse Daudet avait le droit d'être un imbécile. Au lieu de cela, il est le plus délicat et le plus sensitif de nos poètes.
Bien. Donc, Daudet a su reconnaître hommage hein, qui lui était donné dans les Camées parisiens, en reconnaissant l'importance novatrice de Théodore de Banville dans un article donné à l'événement le 18 octobre 1866. Il s'agit d'une réponse à Villemessant, le patron, le tout-puissant patron de presse, hein, qui lui aurait demandé, selon Daudet, d'écrire en vers la prochaine lettre de Montmoulin. Je cite. Vous me demandiez l'autre jour, cher monsieur, si mon moulin était seulement un moulin à prose, et si le meunier ne pouvait pas vous envoyer de là-bas quelques saquettes de jolies rimes. Voilà certes une offre galante, et comme les directeurs de journaux ne sont pas accoutumés d'en faire aux poètes. Malheureusement, depuis que je suis propriétaire, je n'ai pas éprouvé une seule fois le besoin de rimer. Et mon pauvre Richelet, il s'agit du fameux, est dans un état pitoyable. Donc, monsieur, si vous voulez des vers, il faut m'expédier au plus vite un autre dictionnaire. Celui de Banville, ou de Gautier par exemple. Et vous contenter, en attendant, de deux petits poèmes sans rime. Banville avait remis à l'honneur le triolet dès 1857 et, pardon, Daudet, excusez-moi, avait remis à l'honneur le triolet dès 1857 et dans son petit traité de poésie française en 1872, Banville salue la réussite de Daudet et prend comme modèle pour son dictionnaire, pour son traité de versification, les prunes. Copé, un autre ami de Daudet, est presque du même âge que Daudet. Ils nouent des liens très amicaux et qui perdurèrent même après la mort de Daudet avec son épouse. Ce qui les rapproche, c'est leur attention commune aux humbles. Alors que Daudet pratique une poésie fantaisiste et une versification moderne et un vocabulaire aussi marqué par la modernité, Copé, lui, propose une poésie prosaïque où la versification se fait presque invisible. Le petit épicier en est un exemple, mais beaucoup trop long pour être lu aujourd'hui. En revanche, Daudet a connu des relations très difficiles avec la génération montante, celle des jeunes symbolistes. La transparence de la prose de Daudet, sa revendication de l'importance de la clarté, sont autant d'obstacles infranchissables entre lui et les symbolistes. Daudet était surnommé par eux le pompier de Champs-Rosé, il avait une maison à Champs-Rosé dans la banlieue parisienne, et il a été constamment raillé et insulté dans la revue La Plume. Malgré son immense succès, Daudet supportait mal ses agressions constantes dans La Plume. Et dans son roman paru posthume, Soutien de famille, il brocarde ceux qu'il appelle les symbolards. Alors, peut-on être poète en prose? Au fond, vous l'avez compris, c'est la gageure de cette lettre à Villemessan et de ce moulin qui ne mouline hein, que de la prose. C'est le recueil de Baudelaire, le Spleen de Paris, qui popularise l'idée que peut exister une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée, pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, au soubresaut de la conscience, hein, je cite bien sûr Baudelaire. Baudelaire ne semble pas prendre en compte dans ce texte ce qui deviendra pourtant un trait définitoire du poème en prose, genre oxymorique par essence, sa brièveté, hein. C'est pas nécessairement pas envisagé par Baudelaire. Considérant l'œuvre de Daudet, il faut porter à son crédit la création de véritables poèmes en prose, les deux ballades qui constituent une des lettres de Montmoulin, le sous-préfet au chant, et la mort du dauphin, vous allez les entendre. L'une est gaie, l'autre triste, mais toutes deux sont construites sur un système de répétition qui, comme un refrain, scande le texte. Ce sont de courts tableaux articulés autour d'une progression annoncée dans le titre, la mort du dauphin, ou au contraire problématique, le sous-préfet au champ qui n'annonce rien. Tous deux baignent dans un brouillage temporel, la période de la Renaissance pour le dauphin, le 19e siècle pour le sous-préfet, mais rien n'est réaliste, et c'est très vite le temps de la légende qui prend le pas, ou celui de la fable où la nature prend la parole. Du temps que les bêtes parlaient, dit La Fontaine, que Daudet désigne comme l'un des saints de son calendrier poétique. Les deux ballades font entendre des notes fantaisistes, discordantes même, ainsi la mort du dauphin n'est pas entièrement pathétique, il y a des notes humoristiques. Le sous-préfet au chant mêle constamment satire et poésie. Rythmes et assonances contribuent à un effet poétique qui distingue ces deux textes d'une simple narration. Vous allez donc les entendre l'un et l'autre.
Il y a d'abord une introduction, c'est ça?
Oui, mais je vous en prie.
Introduction, balade en prose. En ouvrant ma porte ce matin, il y avait autour de mon moulin un grand tapis de gelée blanche. L'herbe luisait et craquait comme du verre. Toute la colline grelottait. Pour un jour, ma chère Provence s'était déguisée en pays du Nord. Et c'est parmi les pins frangés de givre, les touffes de lavande épanouies en bouquets de cristal, que j'ai écrit ces deux ballades d'une fantaisie un peu germanique, pendant que la gelée m'envoyait ses étincelles blanches, et que là-haut, dans le ciel clair, de grands triangles de cigognes venus du pays de Heinrich Heine descendaient vers la Camargue en criant « Il fait froid, froid, froid !»
La mort du dauphin. Le petit dauphin est malade. Le petit dauphin va mourir. Dans toutes les églises du royaume, le Saint-Sacrement demeure exposé nuit et jour, et de grands cierges brûlent pour la guérison de l'enfant royal. Les rues de la vieille résidence sont tristes et silencieuses. Les cloches ne sonnent plus, les voitures vont au pas. Aux abords du palais, les bourgeois curieux regardent à travers les grilles des Suisses à bedaines dorées qui causent dans les cours d'un air important. Tout le château est en émoi. Des chambellans, des majordomes montent et descendent en courant les escaliers de marbre. Les galeries sont pleines de pages et de courtisans en habits de soie qui vont d'un groupe à l'autre guetter les nouvelles à voix basse. Sur les larges perrons, les dames d'honneur éplorées se font de grandes révérences en essuyant leurs yeux avec de jolis mouchoirs brodés. Dans l'orangerie, il y a nombreuses assemblées de médecins en robe. On les voit à travers les vitres agiter leurs longues manches noires et incliner doctoralement leurs perruques à marteau. Le gouverneur et l'écuyer du petit dauphin se promènent devant la porte, attendant les décisions de la faculté. Les marmitons passent à côté d'eux sans les saluer. Monsieur l'écuyer jure comme un païen. Monsieur le gouverneur récite des vers d'Horace. Et pendant ce temps-là, là-bas, du côté des écuries, on entend un long hennissement plaintif. C'est l'alzan du petit dauphin que les palefreniers oublient et qui appellent tristement devant sa mangeoire vide. Et le roi? Où est monseigneur le roi? Le roi s'est enfermé tout seul dans une chambre au bout du château. Les majestés n'aiment pas qu'on les voit pleurer. Pour la reine, c'est autre chose. Assise au chevet du petit dauphin, elle a son beau visage baigné de larmes et sanglote bien haut devant tous, comme ferait une drapière. Dans sa couchette de dentelle, le petit dauphin, plus blanc que les coussins sur lesquels il est étendu, repose, les yeux fermés. On croit qu'il dort, mais non, le petit dauphin ne dort pas. Il se retourne vers sa mère et voyant qu'elle pleure, il lui dit « Madame la reine, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous croyez bonnement que je m'en vais mourir ?» La reine veut répondre, les sanglots l'empêchent de parler. « Ne pleurez donc pas, madame la reine, vous oubliez que je suis le dauphin et que les dauphins ne peuvent pas mourir ainsi. » La reine sanglote encore plus fort. Et le petit dauphin commence à s'effrayer. « Oula, dit-il, je ne veux pas que la mort vienne me prendre, et je saurais bien l'empêcher d'arriver jusqu'ici. Qu'on fasse venir sur l'heure 40 lansquenets, très fort, pour monter la garde autour de notre lit. Que 100 gros dragons veillent nuit et jour, mèches allumées sous nos fenêtres. Et malheur à la mort si elle ose s'approcher de nous. » Pour qu'on plaire à l'enfant royal, la reine fait un signe. Sur l'heure, on entend les gros canons qui roulent dans la cour et 40 grands lansquenets. La pertuisane, au poing, viennent se ranger autour de la chambre. Ce sont de vieux soudards à moustaches grises. Le petit dauphin bat des mains en les voyant. Il en reconnaît un, il l'appelle « Lorrain, Lorrain !» Le soudard fait un pas vers le lit. « Je t'aime bien, mon vieux Lorrain. Fais voir un peu ton grand sabre. Si la mort veut me prendre, il faudra la tuer, n'est-ce pas ? Laurent répond : Oui, monseigneur. Et là, de grosses larmes qui coulent sur ses joues tannées. À ce moment, l'aumônier s'approche du petit dauphin et lui parle longtemps, à voix basse, en lui montrant un crucifix. Le petit dauphin l'écoute d'un air fort étonné, qui tout à coup l'interrompt. « Je comprends bien ce que vous me dites, monsieur l'abbé, mais enfin, est-ce que mon petit Beppo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup d'argent ?» L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et le petit dauphin a l'air de plus en plus étonné. Quand l'aumônier a fini, le petit dauphin reprend avec un gros soupir. « Tout ce que vous me dites là est bien triste, monsieur l'abbé. Mais une chose me console, c'est que là-haut, dans le paradis des étoiles, je vais être encore le dauphin. Je sais que le bon Dieu est mon cousin et ne peut pas manquer de me traiter selon mon rang. » Puis il ajoute en se tournant vers sa mère, « Qu'on m'apporte mes plus beaux habits, mon pourpoint d'hermine blanche et mes escarbins de velours. Je veux me faire brave pour les anges et entrer au paradis en costume de dauphin. » Une troisième fois, l'aumônier se penche vers le petit dauphin et lui parle longuement, à voix basse. Au milieu de son discours, l'enfant royal l'interrompt avec colère. « Mais, crie-t-il alors, d'être dauphin, ce n'est rien du tout ?» Et sans vouloir plus rien entendre, le petit dauphin se tourne vers la muraille et il pleure amèrement.
Après le triste, le gai.
Le sous-préfet au champ. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la combe aux fées. Pour cette journée mémorable, monsieur le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son petit claque, sa culotte collante à bande d'argent et son épée de gala à poignée de nacre. Sur ses genoux repose une grande serviette en chagrin gaufré qu'il regarde tristement. Monsieur le sous-préfet regarde tristement sa serviette en chagrin gaufré. Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la combe aux fées. Messieurs et chers administrés, mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter 20 fois de suite « Messieurs et chers administrés », la suite du discours ne vient pas. Elle ne vient pas. Il fait si chaud dans cette calèche, à perte de vue, la route de la combe aux fées poudroie sous le soleil du midi. L'air est embrasé et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couvert de poussière blanche, des milliers de cigales se répondent d'un arbre à l'autre. Tout à coup, monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe. Il semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet, pour composer votre discours, vous serez beaucoup mieux sous les arbres. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche et dit à ses gens de l'attendre qu'il va composer son discours dans le petit bois de chêne vert. Dans le petit bois de chêne vert, il y a des oiseaux, des violettes et des sources sous l'herbe fine. Quand ils ont aperçu monsieur le sous-préfet avec sa belle culotte et sa serviette en chagrin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter. Les sources n'ont plus osé faire de bruit et les violettes se sont cachées dans le gazon. Tout ce petit monde-là n'a jamais vu de sous-préfet et se demande à voix basse quel est ce beau seigneur qui se promène en culotte d'argent. On se demande quel est ce beau seigneur en culotte d'argent. Pendant ce temps-là, monsieur le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, relève les pans de son habit, pose son claque sur l'herbe et s'assied dans la mousse au pied d'un jeune chêne. Puis il ouvre sur ses genoux sa grande serviette de chagrin gaufré et en tire une large feuille de papier ministre. « C'est un artiste !» dit la fauvette. « Non, dit le bouvreuil, ce n'est pas un artiste puisqu'il a une culotte en argent. C'est plutôt un prince. Plutôt un prince. ni un artiste ni un prince, interrompt un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. Je sais ce que c'est un sous-préfet. Et tout le petit bois va chuchotant, c'est un sous-préfet. Comme il est chauve, remarque une alouette à grande huppe. Le violet demande, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? Le vieux rossignol répond, pas du tout. Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter, les sources à courir, les violettes à embaumer comme si le monsieur n'était pas là. Impassible au milieu de ce joli tapage, monsieur le sous-préfet invoque dans son cœur la muse des comices agricoles. Et le crayon levé commence à déclamer le sabbat de cérémonie. Messieurs et serfs administrés, messieurs et serfs administrés. Un éclat de rire l'interrompt. Il se retourne et ne voit rien qu'un gros pivert qui le regarde en riant, perché sur son claque. Le sous-préfet hausse les épaules et veut continuer son discours. Mais le pivert l'interrompt encore et lui crie de loin, à quoi bon? Comment à quoi bon? Dit le sous-préfet, qui devient tout rouge, et sachant du geste cette bête effrontée, il reprend de plus belle. Messieurs et chers administrés, mais alors, voilà que les petites violettes qui se haussent vers lui sur le bout de leur tige et qui lui disent doucement, monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon? Et les sources lui font sous la mousse une musique divine, et dans les branches au-dessus de sa tête, des tas de fauvettes viennent de chanter leur plus jolies airs, et tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Monsieur le sous-préfet, grisé de parfum, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, dégrade son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois, messieurs, j'ai servi administrés, messieurs, j'ai servi, messieurs. Puis il envoie les administrateurs au diable, et la muse des comices agricoles n'a plus qu'à se voiler la face. Voile-toi la face, ô muse des comices agricoles. Lorsque, au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont entrés dans le petit bois, ils ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur. Monsieur le sous-préfet était couché sur le ventre, dans l'herbe, débraillé comme un bohème. Il avait mis son habit bas, et tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers.
Alors, comme vous avez pu l'entendre, surtout avec le talent de nos deux lecteurs, ces deux réussites sont exemplaires. Mais on pourrait aisément, dans les lettres de Montmoulin et dans les contes du lundi, isoler des morceaux qui, détachés, constitueraient des poèmes en prose, comme le début de la Mule du Pape, par exemple, qui évoque Avignon, qui n'a vu Avignon au temps des papes, hein, et donner à continuer à cultiver la prose poétique dans ses romans. C'est peut-être ce qui fait qu'à sa mort, on le salue encore du nom de poète, et en particulier dans un passage d'un roman qui s'appelle Le Nabab, dont vous allez entendre un tout petit extrait. Il s'agit du début du roman. Le protagoniste, le docteur Jenkins, fait sa tournée dans Paris, couvert de brouillard.
Oui, le brouillard était froid, mais blanc comme de la vapeur de neige. Et tendu derrière les glaces du grand coupé, il égayait de reflets doux le journal déplié dans les mains du docteur. Là-bas, dans les quartiers populeux, resserrés et noirs, dans le Paris commerçant et ouvrier, on ne connaît pas cette jolie brume matinale qui s'attarde aux grandes avenues. De bonheur, l'activité du réveil, le va-et-vient des voitures maraîchères, des omnibus, des lourds camions secouant leurs ferrailles, l'ont vite haché, effiloqué, éparpillé. Chaque passant en emporte un peu dans un paletot râpé. Un cache-nez qui montre la trame, des gants grossiers frottés l'un contre l'autre. L'imbibe les blouses frissonnantes. Les waterproofs jetés sur les jupes de travail. Elles se font à toutes les haleines, chaudes d'insomnie ou d'alcool, s'engouffrent au fond des estomacs vides, se répandent dans les boutiques qu'on ouvre, les cours noirs, le long des escaliers dont elles inondent la rampe et les murs, jusque dans les mansardes sans feu. Voilà pourquoi il en reste si peu dehors. Mais dans cette portion de Paris espacée et grandiose, on demeurerait, où demeurerait la clientèle, pardon. Voilà. Mais dans cette portion de Paris espacée grandiose où demeurait la clientèle de Jenkins, sur ces larges boulevards plantés d'arbres, ces quais déserts, le brouillard planait immaculé en nappes nombreuses avec des légèretés et des floconnements de ouates. C'était fermé, discret, presque luxueux, parce que le soleil derrière cette paresse de son lever commençait à répandre des teintes doucement pourprées et qui donnaient à la brume enveloppant jusqu'aux fuites faites les hôtels alignés, l'aspect d'une mousseline blanche jetée sur des étoffes écarlates. On aurait dit un grand rideau abritant le sommeil tardif et léger de la fortune. Épais rideau, où rien ne s'entendait que le battement discret d'une porte cochère, les mesures en fer blanc des laitiers, les grelots d'un troupeau d'ânesses passant au grand trot, suivi du souffle court et haletant de leurs bergers, et le roulement sourd du coupé de Jenkins commençant sa tournée de chaque jour.
Merci beaucoup. Donc vous voyez, cet extrait du Nabab tient à la fois des tableaux parisiens de Baudelaire et en même temps de ces beautés météorologiques que Baudelaire célébrait également avec ce très beau, ces très beaux déploiements de brouillard et de brume qui prend des formes si diverses selon les quartiers et selon la lumière qui se lève, la lumière de l'aube qui se lève derrière le brouillard. Alors, je voudrais terminer en évoquant, dans l'œuvre de Daudet, les figures du poète. Vous l'avez vu, il n'y a pas réellement d'adieu aux muses. Et la figure du poète est omniprésente dans son œuvre romanesque, depuis ses années d'apprentissage jusqu'à l'extrême fin de sa vie. Les poètes sont tantôt les personnages principaux de ses récits, tantôt des comparses. Le Petit Chose est l'histoire d'un poète, le roman Jack met en scène un cercle de poètes, des poètes encore dans le Nabab, dans Sappho, dans l'Immortel. On a pu expliquer cette surreprésentation des poètes par la dimension autobiographique qui est une constante de l'œuvre de Daudet. Daudet ne donne pas une image romantique du poète. Au contraire, souvent il le désacralise dans son travail même. Certes, la muse visite le poète. « Je passais mes journées, écrit-il, tout seul, en tête à tête avec la muse. » Ou ce que j'appelais la muse. Du matin au soir, la fenêtre restait ouverte, avec ma table devant, et sur cet établi, du matin au soir, j'enfilais des rimes. Le poète est donc à la fois artisan, l'établi, enfileur de rimes, ce qui n'est pas très valorisant, et en même temps, celui qui est visité par la muse. Donc il y a cette ambivalence du poète ouvrier des rimes et en même temps du poète inspiré qui va finalement être les deux pôles entre lesquels Daudet va osciller constamment. Les poètes des fictions de Daudet sont également des personnages à clé dont les proches ont révélé souvent l'identité masquée. Selon Lucien Daudet, le deuxième fils d'Alphonse Daudet, le poète d'Argenton dans Jack aurait eu comme modèle un rêveur, je cite Lucien, un rêveur vaniteux mais inoffensif dont il aurait fait son raté narcissique et cruel. Selon Léon Daudet, le poète La Gournerie dans Sappho, c'est le comte de Lille, encore un repoussoir que Daudet avait déjà attaqué sous le personnage de Bhagavat. On trouve également chez Daudet des personnages de poètes qui revivifient des stéréotypes, comme celui du bohème désargenté, sur lequel le romancier porte un regard ironique et des jugements parfois dépréciatifs. Dans le Nabab, l'un des poètes est reconnaissable à, je cite, « ses longs cheveux rejetés et flottants, cette apparence un peu excentrique, bien excusable quand on la paye d'une vie de souffrance et de privation ». Le poète académique est représenté aussi dans l'Immortel, un poète qui se contente d'une inspiration poussiéreuse à l'image de l'institution académique. Daudet s'intéresse aussi à l'insertion sociale du poète. Il multiplie les scènes de lecture de vers. Dans les salons petits bourgeois, je cite, le dos au piano, l'auditoire en demi-cercle, ou dans Jack, en donnant une image satirique d'un auditoire composé du monde interlope de la bohème. dans ses scènes de lecture, Daudet parodie les cénacles romantiques et décrit un univers où, loin de s'élever mutuellement, les poètes se complaisent dans un narcissisme agressif les uns vis-à-vis des autres. Le drame des poètes, en fait, surtout à l'époque de Daudet, nous dit-il, est de ne pas ou de ne plus trouver d'éditeur, tant la concurrence est grande avec les romanciers. Hein. L'éditeur préfère éditer un roman qu'éditer un recueil de poésie. Hein. Voilà l'origine de ce désamour des éditeurs pour les recueils poétiques. Ça a commencé là et ça continue. Voilà. Donc, le poète chez Daudet est donc très souvent confronté à l'échec matériel. Nous avons vu que Daniel était contraint de vendre de la porcelaine. D'Argenton est misérable. Frédet, dans L'Immortel, voit son volume de vers piteux, enfoui, absent des vitrines. L'échec est souvent également, non seulement dans la vente, mais au cœur même de la création. Daudet peint un poète en panne, confronté à la page blanche. Le frère de Daniel écrit 4 premiers vers. Religion, 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 religion. Oui, c'est une répétition, c'est une anaphore. Et il n'ira jamais plus loin. Et pourtant, le sous-titre de son poète, c'est « Poème en 5 chants yeah. ». D'Argenton, dans Jack, a, je cite, dans l'esprit, une foule de titres vacants, d'étiquettes d'idées, de d'autres volumes, mais sans rien dedans. Donc, la panne, l'inspiration qui ne vient pas. Le vrai poète, selon Daudet, est en symbiose avec la nature. C'est évidemment la figure de Mistral, célébrée dans le poète Mistral, ou même dans la fiction, celle de Frédet, qui, avant d'être saisi de la fièvre verte, composait en pleine campagne des vers qui avaient, je cite Daudet, une jolie note à la briseuse, une bonne odeur de muguet, de menthe sauvage. La poésie, selon Daudet, et je crois que c'est une idée à laquelle il tient beaucoup, la poésie est transgressive. Vous avez compris que c'est ce qu'illustre le sous-préfet au champ, vautré dans l'herbe, débraillé comme un bohème. Toutes les figures contradictoires que présente Daudet sont en fait, dans l'échec comme dans la réussite, unies par une affirmation qui est pour lui essentielle. L'art est un si grand magicien, il crée un soleil qui luit pour tous, comme pour l'un, comme pour l'autre. Et tous ceux qui s'en approchent, même les pauvres, même les laids, même les grotesques, emportent un peu de sa chaleur et de son rayonnement. Il rejoint presque l'affirmation de Lamartine, hein, il y a une vertu dans le soleil. Mais ce soleil, c'est l'art. Hein. Donc voilà. Bien, mais je vous remercie.
Merci beaucoup pour l'excellent exposé. Peut-être y aura-t-il des questions ? Oui ?
Oui, peut-être une réponse, parce que j'avais lu un texte pour vous. Il disait peut-être que le placé, ça m'avait beaucoup ému, c'était par rapport à la guerre de 1970. Et il raconte une histoire de gens qui sont en guerre, sous la pluie, à côté d'un château. Et là, il y a un général qui vient d'arriver. L'histoire, et c'est assez terrible, puisque, alors je narrerai peut-être pas bien, vous m'expliquez, mais...
Non, vous l'expliquez très bien.
Bon, alors, l'histoire est tragique, puisque les gens commencent à mourir, tués par l'ennemi. Il y a un lieutenant, il me semble, au début, qui arrive, qui dit « Mon général, je vous en prie ». Le général qui dit « Non, je suis en train de réfléchir, là je joue au billard.
Le texte s'appelle « La partie de billard » d'ailleurs.
Ah bah voilà, vous m'éclairez. Ensuite, au bout d'un moment, c'est un capitaine qui arrive à cheval en disant « Mon général, il faut absolument intervenir. Ils sont tous tués comme des lapins, ils ne bougent pas, ils sont aux ordres, sous la pluie, dans le froid. » Et puis le général qui dit « Non, je suis encore en train de réfléchir. » Je ne sais plus comment ça se termine, mais...
Ça se termine par le fait que le château est détruit. Et que le signe, c'est aussi le poète, hein, les signes qui étaient sur la pièce d'eau, c'est un ébouriffement sanglant de plumes, hein, toutes les plumes, et le maréchal qui est, c'est un maréchal ce général, le maréchal qui est évidemment une figure de Bazaine, est très satisfait, il dit « j'ai gagné la partie ». Et le texte s'appelle « La partie de billard hein. ».
Jean-Noël ? Tu voulais intervenir ? Ah non, j'ai cru.
Mais elle n'est pas levée la main.
Excuse-moi, là.
Qui a aussi été admirateur de Mistral, un peu antérieur de la génération d'avant Daudet, c'est Lamartine. Lamartine a fait énormément pour la reconnaissance de Mistral, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Comme vous le savez.
Lamartine écrivait un cours familier de littérature, et dans ce cours familier, chaque fois, il célébrait un poète ou deux, enfin bon. Et il essayait, comme c'est quand même un Girondin, Lamartine, hein, donc il essayait aussi de trouver des poètes en province. Et alors là, il a rencontré Mistral grâce à Adolphe Dumas, et donc il a consacré son 40e entretien de littérature à Mistral, et ce 40e entretien commençait par « Il y a une vertu dans le soleil hein, ». Et ce 40e entretien célébrait Mistral et l'a fait connaître réellement. Et à partir de ce moment-là, l'Académie française s'est intéressée à l'œuvre de Mistral et lui a décerné un prix, je crois que c'était le prix Montyon. Ça paraît un peu bizarre parce que c'est un prix de... Mais bon, il lui a décerné le prix Montyon. Et à ce moment-là, nous sommes en 1858, à ce moment-là, Mistral vient chercher son prix à l'Académie. Et tout le monde ne parle que de Mireille, hein, et à ce moment-là, évidemment, Daudet lit Mireille et dit « Mais moi, je suis enthousiaste de Mireille, je veux rencontrer Mistral ». Donc, on ménage une rencontre entre les deux hommes, et c'est le coup de foudre amical hein, entre Mistral et Daudet. Et alors, à ce moment-là, la lumière de Mistral va rejaillir sur le Daudet débutant, hein, et en même temps, le Daudet débutant qui finalement est assez introduit dans les journaux parisiens et en particulier au Figaro et à l'événement qui sont dirigés par Hippolyte de Villemessant, va rendre des services à Mistral en donnant des poèmes. Et le poète Mistral dont vous avez entendu un petit morceau, célèbre en fait un ensemble qui est Calendal qui est l'histoire du pêcheur de Cassis, voilà, il l'a fait Sérel, hein. Donc Calendal est finalement dans le poète Mistral, ça sert aussi à Daudet à faire la promotion du volume de Mistral qui va paraître incessamment. Donc il y a à la fois, si vous voulez, ce double objectif.
Et il faut aussi ajouter, à propos de la langue de Mistral, que c'est une fausse langue, parce que on a dit que Mistral avait ressuscité le Languedoc. Or, en réalité, c'est une langue qu'il a totalement fabriquée, et à partir, effectivement, d'un substrat incontestable. Mais la langue de Mireille, c'est du Mistral, c'est une langue qui lui appartient en propre et qui n'a rien à voir avec les véritables dialectes du Languedoc.
Alors, à Fonségune, en 1854, se réunissent des poètes, donc Roumani, Aubanel, Mistral, etc., qui s'appelle les Faits Libres, qui commencent à construire quelque chose qui va devenir une véritable armée. Enfin, dire pour ça que Daudet ne voudra jamais être Faits Libres, parce qu'il y a le majoral, le sous-majoral. Donc ils vont imaginer de recueillir des témoignages de la langue provençale, et à partir de tous ces témoignages, ils vont faire une sorte de centon, hein, en cherchant finalement à compléter les trous, ce qui manque. Donc c'est pas véritablement complètement artificiel, mais c'est évidemment une langue qui est une langue poétique, voilà, c'est-à-dire le fait des poètes, hein, mais qui va avoir beaucoup de succès, parce que à cette époque de séparatisme, tout à l'heure j'ai évoqué un petit peu les tensions qui ont pu Daudet et Jacobin, dans sa conception de il est monté à Paris, mais il est hexagonal, d'autant plus que la guerre de 70 le métamorphose. Mais Mistral reste, ils ont très marqué par le provincialisme. Et à ce moment-là, il va donc créer un dictionnaire, le fameux trésor du Félibrige, et ce dictionnaire va être utilisé par d'autres poètes locaux, un peu séparatistes aussi, qui vont utiliser ce trésor du Félibrige pour écrire. Et le cousin de Daudet, donc Timoléo Ambrol, propriétaire du château de Montauban, discutant avec Léon Daudet, dans les souvenirs de Léon, il dit « Mais je ne comprends pas toutes ces histoires autour de lui comme ça, et plus personne ne parle cette langue à Fontvieille. Et nous parlons tous français. » Et d'ailleurs, Daudet le sait très bien, parce qu'il lui dit « De toute façon, et c'est là aussi avec un petit sujet de fiction, il lui dit « C'est une langue admirable, merveilleuse, elle est superbe, mais elle disparaîtra. » Ça, c'est dans les entretiens avec Baptiste Bonnet. Elle disparaîtra pour trois raisons. Elle disparaîtra parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont nommés partout et que ces fonctionnaires ne parlent pas provençal. Elle disparaîtra parce qu'il y a le service militaire et que les garçons partent 5 ans, à l'époque c'est assez long, partent 5 ans et ne peuvent pas donc s'exprimer pendant 5 ans dans leur langue. Ils étaient nécessairement envoyés ailleurs. Hein. Et elle disparaîtra parce qu'il y a le chemin de fer et que la circulation va devenir tellement facile et de plus en plus facile que forcément les gens voudront s'exprimer en français. Donc ça fait trois bonnes raisons pour que le provençal disparaisse. Bon, c'est très dommage. C'est...
Mais le centraliste républicain aussi proscrivait
les langues locales. Oui, absolument.
Absolument. D'ailleurs, d'une façon,
Daudet ne s'est jamais exprimé sur le terrorisme de la Troisième République. Mais d'une certaine façon, il y a un texte qui est extraordinaire de Daudet, c'est La dernière classe. La dernière classe se déroule en Alsace.
C'est une imposture historique.
Donc ça se déroule en Alsace. L'instituteur français est remplacé par un instituteur allemand, prussien, et par conséquent, tous les Alsaciens vont devoir parler prussien, alors que les pauvres chéris parlaient français, etc. Donc vous avez un texte extrêmement émouvant, ça se termine par « Vive la France », et ça se termine par une formule de Mistral, « Quand un peuple tient sa langue, il tient la clé de la prison hein ». Donc voilà un texte merveilleux, et ce texte... J'avais une étudiante japonaise qui me dit « Mais madame, ce texte, c'est quand même bizarre parce que ces Alsaciens, finalement, puisqu'ils sont obligés d'aller à l'école pour aller apprendre le français, c'est qu'ils ne le parlaient pas. » Donc, on a, si vous voulez, cette idée d'une classe en français en Alsace, alors que bien évidemment, les Alsaciens parlaient alsacien. Donc,
il faut quand même dire, à propos de cette dernière classe, ça a été un texte, comment dirais-je, emblématique de la Troisième République, revancharde, alors qu'en réalité, les Prussiens ont fait une occupation de l'Alsace et de la Lorraine extrêmement douce, et qu'ils n'ont absolument pas forcé, justement, les populations à parler français. Mais ça faisait...
Par l'Alsacien,
oui, c'est ça.
Et donc,
mais c'était surtout lu en France.
Alors, ça n'a pas été lu qu'en France. Quand je suis allée en Chine, le collègue me dit « Et vous, madame, sur quoi avez-vous fait votre thèse ?» Je lui dis « Sur un auteur que vous ne connaissez absolument pas, c'est un auteur qui ne sera pas sûrement connu de vous, c'est Alphonse Daudet. » « Oh, me dit « Alphonse Daudet, mais on connaît très très bien Alphonse Daudet. » Je lui dis « Bah bon, comment ?» Il me dit « Mais tous les Chinois ont lu La dernière classe. » Parce que, à cause des problèmes avec le Tibet, eh bien, on a traduit La dernière classe, et c'est un des textes obligatoires de l'éducation, enfin, de l'enseignement secondaire chinois. Donc voilà.
J'ai un ami qui s'occupe de linguistique un petit peu, et qui a correspondu avec la Chine. Il s'est rendu compte qu'en Chine, il y avait plus de gens en Chine qui parlait l'occitan et le provençal qu'en France nous-mêmes. Ils sont beaucoup plus nombreux à parler l'occitan et le provençal en Chine que chez nous.
Peut-être que vu de Pékin...
Mais hein. ils sont tellement nombreux aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Il suffit qu'il y ait...
Allez, 0,5%.
Voilà. Daudet parlait-il vraiment la langue d'oc?
Alors, Daudet ne parlait pas. Alors, Daudet, voilà, c'est un peu compliqué.
Oui.
Quand il était tout petit, il était gringalet, et on l'a mis à la campagne, comme dans les familles un peu bourgeoises, on mettait l'enfant en nourrice à la campagne pour qu'il respire le bon air. Donc, il a été mis en nourrice chez des gens à Bezousse, un petit village qui est dans le Gard, à Bezousse, et les gens chez qui il était ne parlaient pas français. Donc, il a forcément entendu et utilisé le provençal.
Mais quand il rentrait chez lui à Nîmes, pas question de dire un mot de provençal. Les gens de qualité ne parlaient pas le patois des paysans. Hein. Donc, il fallait parler français. Puis comme il a quitté Nîmes à l'âge de 8 ans, il n'a plus du tout parlé provençal, jusqu'au moment où il rencontre Mistral. Il a donc à ce moment-là 18 ans. Et à ce moment-là, ça ressuscite chez lui les souvenirs de la petite enfance et il se met à apprendre le provençal. Alors, il apprend le provençal et il le manipule assez correctement. Il correspond avec Mistral en provençal. Il est capable de traduire du provençal en français. C'est ce qu'il fait pour le célèbre poème La communion des saints. Il traduit lui-même deux de ses contes, deux de ses lettres de Montmoulin en provençal. La mule du pape. Et puis, je sais, le curé de Tricugnan, qu'il auto-traduit en provençal pour le fameux Almanach provençal, hein, l'Almanach provençal que publient les Philippe tous les ans. Et puis, une anecdote un petit peu drôle, quand il écrit à Mistral par ballon monté, quand c'est le siège de Paris, hein, donc le courrier passe par ballon, et il lui dit ben, mon cher Mistral, je suis content d'écrire en provençal, parce que si ces cochons d'allemand, excusez-moi, attrapent mon message, et ben, ils le comprendront pas. Donc, mais ça reste, si vous voulez, de l'ordre du folklore, parce qu'en fait, à la fin de sa vie, quand Baptiste Bezouz lui dit mais pourquoi est-ce que maître, pourquoi n'as-tu pas mon bail écrit en provençal, il dit j'aurais peut-être pu écrire en provençal, mais nigo, les lecteurs sont à Paris, les lecteurs lisent le français, et en plus, pour moi, le provençal est une langue acquise à partir de ma jeunesse, après vers 18 ans, donc je n'ai pas l'originalité que j'ai dans ma vraie langue, qui est le français.
On parle de provençal, mais dans le Gard, ce n'est pas du provençal.
Non.
C'est un patois, c'est différent.
Je voudrais dire quelque chose. Il existe, à la fin du XVIIIe siècle, dans le Gard, il y avait un abbé, l'abbé Boissier de Sauvage, qui a rédigé un dictionnaire languedocien français et français languedocien, dont j'ai un exemplaire un peu tardif de 1820, mais le dictionnaire est plus ancien, il est de la deuxième moitié ou du dernier quart du XVIIIe siècle. Or, là, ce dictionnaire a une valeur d'usuel, c'est-à-dire qu'on voyait bien que les populations du Gard, du Languedoc, parlaient le dialecte languedocien et en même temps voulaient se faire comprendre en français, pouvaient écrire dans les deux langues et donc ils avaient besoin de ce dictionnaire. Là, ce n'était pas la langue de Mistral, c'était une véritable langue, un véritable dialecte qui était parlé depuis toujours, alors que la langue de Mistral, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est une langue quand même un peu fabriquée et qui n'a rien à voir avec quand vous lisez le dictionnaire. L'anglo-saxon français de l'abbé Boissier de Sauvage, ça n'a pas grand chose à voir, ou pas tout à fait, avec la langue de Mistral, mais elle s'en approche bien sûr. Excusez-moi.
Vous avez parfaitement raison. Le trésor du Philippe Riche n'est absolument pas un dictionnaire destiné à un Parisien qui voudrait discuter avec un fermier pour faire affaire. C'est absolument pas ça. C'est vraiment un peu comme le dictionnaire de Banville, un dictionnaire de termes qui permet à un érudit, à un poète, d'écrire un poème ou un conte, une nouvelle. Et le fait d'avoir lancé à partir de 54, l'Almanach provençal, c'est une sorte d'entreprise de propagande, hein, d'une certaine façon, pour que dans les fermes où on achète tous les ans l'Almanach, ils aient à lire des textes qui sont des textes en provençal. Et le champion de ces textes en provençal mistralien, c'est Roumanie, Lucas Carrel.
Et alors, pour revenir à la langue fabriquée, il m'a semblé que, pour revenir aussi à la poésie, que dans ce que j'ai entendu, c'était un peu de la poésie chez Daudet, mais dans la prose, que cette langue était un peu fabriquée, ce qu'on appelait à l'époque l'écriture artiste. Est-ce que je me trompe ou...
Oui, alors c'est on peut pas vraiment dire que c'est l'écriture artiste non. À la manière de Goncourt, parce que l'écriture artiste n'a au fond, je vais peut-être me faire engueuler,
oui.
n'a peut-être au fond pas vocation à être comprise par le vulgaire.
D'accord.
Tandis que Daudet cherche toujours à maintenir le contact avec un lecteur qui n'est pas forcément un lecteur extrêmement cultivé. Il n'écrit pas pour les habitués, il écrit pour tout le monde.
Et alors, dernière question, pourquoi a-t-il renoncé à la poésie ?
Alors, pourquoi a-t-il renoncé à la poésie? Je pense que chez Daudet, il y a absolument la nécessité de gagner son pain quotidien et le beurre et la confiture qui va dessus. Donc à ce moment-là, il va essayer le théâtre, parce que c'est par le théâtre qu'on arrive. Hein. Et l'Arlésienne pièce est un four absolu. Enfin, ça a été vraiment un four complet. On ne voyait pas l'héroïne, la musique de Bizet était monstrueusement moche, on ne l'écoutait pas. Enfin, c'est la catastrophe absolue. Hein. Donc du coup...
Gounod.
Non, l'Arlésienne. L'Arlésienne. Pour l'Arlésienne.
L'Arlésienne est un faux, mais c'est pourtant une excellente pièce de théâtre.
Oui, mais après.
Qui a des ressorts théâtraux. Je la connais très bien parce que je l'ai jouée, je l'ai montée. Elle a des ressorts théâtraux absolument merveilleux. Et elle fait monter le truc jusqu'au bout. Elle est très très bien construite et c'est dommage qu'elle ait eu un four parce que c'est une très bonne pièce.
Maintenant. Oui, mais à l'époque, quand elle a été jouée, les entr'actes étaient composés par Bizet. Vous savez, il a posé... Bon, ça, la marche des rois sert comme musique de scène de l'Arlésienne. Alors, bon, pour revenir en 1873, quand il fait représenter l'Arlésienne, à ce moment-là, bon, il a fait représenter à l'Odéon, à ce moment-là, les gens ne comprennent pas qu'il n'y ait pas d'Arlésienne. Et ça les perturbe. On la voit pas. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que cette traînée soit reçue par une honnête femme comme la mère de Yann. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle aurait été faire à la ferme? Non, rien. Hein, vous êtes d'accord. Donc on en parle, mais on la voit pas. Donc le public ne veut pas le voir. Hein. Bon, donc ça leur paraît monstrueux. Villemessant, qui est dans une loge, part à la fin du premier acte en claquant bien fort la porte de la loge et en criant « c'est crevant une pièce où on voit que des vieilles ». Alors effectivement, au premier acte, on ne voit que la mère, qui, bon, vieille paysanne, etc. Donc, ça a jeté un froid, et ça a véritablement été un four. Alors, ce qui est amusant, c'est que 30 ans après...
C'était un froid, donc c'était un four.
Le four, absolument. Alors, après, le four se réchauffe et devient un froid. Et ça devient, à partir de 1884... la pièce la plus représentée jusqu'en 1940, la plus représentée du théâtre.
Et pas
ouais. Voilà, comme quoi vous voyez. Et quand un théâtre voulait renflouer sa caisse, il montait l'Arlésienne. Parce qu'effectivement, c'est une très belle pièce. Et la musique de Bizet, après Carmen, devient au contraire une musique prisée. Et on peut dire que d'une certaine façon, la jolie Michaela, avec ses nattes blondes et sa jupe bleue, elle est un peu vivette.
Oui, oui.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Parce qu'il y a quand même une jolie frimousse dans l'Arlésienne. Oui. Mais évidemment, bon, Yann, ça ne l'intéresse pas. C'est un peu comme le Don José n'est pas intéressé par Michaela. C'est ça la passion. Oui. Donc, le four de l'Arlésienne est tel qu'il transforme la pièce suivante, qui s'appelait Fromangeux et Risley-René, il transforme la pièce suivante en roman. Et au miracle, le roman marche. Il a le prix de l'Académie française et ça se vend tellement bien que Charpentier, il va toucher ses droits d'auteur et il dit à Charpentier, je peux les avoir en or? Charpentier lui dit, mais oui mon ami. Et il a un petit sac d'or, il revient chez lui, il lance les pièces d'or en l'air et Léon Daudet se rappelle, et ça a été la danse de l'or et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il a écrit lui a porté bonheur. Voilà, c'est une belle histoire quand même.
Oui. Eh ben, merci beaucoup.
Je crois qu'il avait critiqué les salons, mais il recevait lui aussi.
Dans les salons?
Oui.
Ah oui,
oui. Bah, il était généreux par rapport aux
oui.
jeunes.
Il était très généreux parce qu'il recevait beaucoup les jeunes et il les aidait. Il les aidait. En demandant aux éditeurs de les éditer.
Oui.
Il les aidait financièrement en payant quand il y avait à payer.
Oui.
C'était vraiment le Saint-Bernard de la... Oui, absolument.
Sa femme était très accueillante.
Sa femme était très accueillante aussi, oui. Mais alors sa femme avait été très accueillante. Enfin, les parents de sa femme avaient été accueillants aussi. Donc il y a une sorte de tradition de l'accueil au poète.
Excusez-moi, il faut qu'on s'en aille. Hein.
Oui, oui. Voilà.
Presque jusqu'en 40. Elle est morte.
Dans le salon Aliénor et on sera ravis de vous accueillir le mois prochain pour Catherine Pozzi.